je vous invite à réfléchir autour d'un verset qui nous servira de tremplin à notre méditation dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2 et au verset 52. Évangile selon Luc, chapitre 2. Nous lirons le verset 52. Jésus a 12 ans, il vient d'enseigner au temple d'une manière remarquable. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Ses parents vont le chercher et il va leur répondre, « Eh bien, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et ensuite, il y a ce verset 52 qui arrive, où il dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous allons continuer à réfléchir sur ce thème que nous avons abordé il y a 3 semaines de la maturité spirituelle. Nous avons vu que la maturité spirituelle était faite de stabilité. Et ici, ce texte est quand même surprenant lorsqu'on le pèse un petit peu, puisqu'il nous est dit que Jésus, le Fils de Dieu, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, le Fils de Dieu, croissait, grandissait devant son Père. Et l'Épître aux Hébreux nous révèle que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et la véritable interrogation que nous pouvons avoir, c'est la suivante. Si Jésus avait besoin de grandir, n'avons-nous pas, nous aussi, ce besoin? Voyez-vous, la nouvelle naissance n'est qu'un point de départ et j'aimerais ancrer cette réalité dans votre cœur. Lorsque je suis sauvé, eh bien, je renais à nouveau. C'est une nouvelle naissance. Mes rêves changent, mes aspirations changent, mes buts changent. Et à ce titre, je suis un tout petit bébé spirituel. Et il est nécessaire que j'apprenne à grandir. Et dans le verset que nous venons de lire, c'est intéressant de voir l'ordre des choses, puisque Jésus grandissait premièrement devant Dieu et ensuite devant les hommes. Ce qui veut dire que pour grandir devant les hommes, je dois tout d'abord grandir devant Dieu. C'est le principe de base. Et qu'ensuite, cette croissance devant Dieu, elle doit être remarquée par les hommes. C'est ce que dira Paul à Timothée, hein, que tes progrès soient évidents pour tous. Ce qui veut dire que cette croissance, elle est tout d'abord, c'est tout d'abord une croissance qui est spirituelle devant le Père Céleste, mais c'est une croissance qui est également remarquée par ceux qui nous entourent. Jeune homme, jeune fille, est-ce que tes parents remarquent que tu es en train de changer et que ta vie spirituelle prend un tour nouveau? Parents, est-ce que vos enfants remarquent que votre vie spirituelle est en train de changer et que votre vie et que vous prenez que vous faites des progrès avec Jésus? C'est vrai quoi? Pourquoi est-ce qu'il y aurait que les parents à remarquer, à devoir grandir? Hein? Pourquoi? C'est pas juste. Est-ce que vos épouses, messieurs, vous voient changer avec Jésus? Est-ce que les progrès sont évidents pour elles? Est-ce que, mesdames ou messieurs, vos femmes évoluent et est-ce que vous les voyez grandir? Jésus grandissait devant Dieu et devant les hommes. Que nous puissions être de ceux et que nous puissions être de celles qui prenions soin à grandir et avoir cette maturité spirituelle qui fera de nous non pas des petits-enfants, non pas des jeunes hommes et des jeunes filles, mais nous avons tous vocation à devenir des pères selon ce que dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Alors, cette maturité, c'est bien beau. La maturité, ce n'est pas quelque chose de philosophique. Ce n'est pas un concept quelque peu vague. Mais la maturité, elle se remarque, elle se voit dans les faits, dans le quotidien, dans notre vie. Et j'aimerais qu'au travers de la réflexion que nous allons mener maintenant, vous réfléchissiez autour de 2 questions. D'accord ? C'est pas trop dur ? La première de ces questions, c'est « Suis-je un enfant, un adolescent ou un adulte ?» La deuxième question, c'est « Quels sont les axes de progrès et dans quel domaine ma maturité doit-elle devenir plus évidente ?» Ça va ? Vous avez bien retenu ? Faut que je les répète ? « Suis-je un enfant, un adolescent ou un adulte ?» Deuxièmement, « Dans quel domaine ma maturité doit devenir plus évidente ?» Alors, vous décidez de prendre 4 axes. quatre domaines dans lesquels notre maturité se voit et dans lesquels notre croissance avec Jésus devient manifeste. Le premier axe, c'est la maturité physique qui consiste dans la maîtrise du corps pour qu'il soit au service de la volonté de Dieu. Vous n'avez pas remarqué, l'apôtre Paul le décrit très bien dans l'épître aux Galates. En nous, il y a deux régimes. Il y a le régime de l'esprit et le régime de la chair. Et en nous, il y a ce tiraillement qui est de faire d'un côté la volonté de Dieu, que nous savons bonne, agréable et parfaite, et puis de l'autre, de céder à nos pulsions, de céder à nos envies, de céder à nos besoins biologiques, à nos besoins primaires, à finalement des choses qui nous avilissaient hier et qui reviennent peut-être. Peut-être, jeune homme, jeune fille, le Seigneur a-t-il délivré ta vie de quelque chose? Et ces choses-là reviennent-elles en force en toi? Comme des tentations, comme des liens que tu pensais être brisés. Mais le diable réagite le chiffon rouge sous ton nez. Les deux régimes sévissent en nous, dans notre corps. Et l'apôtre Paul mettra les Corinthiens en garde en leur disant, vous savez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et à ce titre, avec votre corps, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. La logique grecque de l'époque, c'était que les trois parties de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, étaient trois parties étanches, séparées par des compartiments étanches. Et les Corinthiens pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi avec leur corps et que cela n'affectait en rien la qualité spirituelle, la relation qu'ils pouvaient avoir avec leur Dieu. Mais Paul va leur dire, c'est faux ça, c'est faux, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et à ce titre, lorsque vous commettez un péché avec des actes, lorsque vous allez voir, c'est ce que va l'exemple que Paul va utiliser, lorsque vous allez voir la prostituée, les prostituées sacrées qui étaient fréquentes dans les temples, eh bien, vous faites un seul corps et non pas une seule chair. Un seul corps avec la prostituée. Ce qui veut dire que lorsque dans mes actes, je pêche, je viole la loi, lorsque je soumets mon corps à l'indignité, que se passe-t-il? Ma relation avec Dieu en pâtit, ma relation avec Dieu en souffre. Et toute la maturité spirituelle, c'est d'être capable de tenir son corps en bride. D'être capable de tenir son corps en bride. Le premier axe de maturité, c'est de se dire, voilà, mon corps est souvent exposé à la tentation. Les lois de la chair sont là. Eh bien, l'homme mature, il est capable de les gérer. Et l'apôtre Jacques insiste sur un deuxième acte qui est intéressant. Il dira que si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Les paroles sont des actes. Lorsque je bouge mes lèvres et que j'utilise ma langue pour parler, je fais un acte. Alors, on a tous besoin de parler, certains plus que d'autres. Je ne citerai pas de nom. Je ne prendrai pas d'exemple. Vous les connaissez. Et l'apôtre Jacques dira que si quelqu'un est capable de tenir sa langue en bride, il est capable de tenir tout son corps. Et qu'est-ce que c'est dur de tenir notre langue en bride. Oh pauvre. Oh pauvre. C'est un acte de naturel, tout le monde parle. Ne serait-ce que pour demander du pain ou pour dire bonjour. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est lorsque la langue devient un mauvais gouvernail. C'est la première image que Jacques utilisera. La langue est un petit gouvernail, mais elle oriente bien le bateau. Et Hérode va se retrouver à un problème un jour. Eh bien, il y a une jeune fille qui va danser sur la table et puis il va être envoûté par cette jeune fille. Il va lui dire, demande-moi ce que tu veux, tu es tellement belle. Demande-moi ce que tu veux. Puis, la jeune fille va aller voir sa mère. Parce que les jeunes filles demandent souvent conseil à leur mère. Et la maman qui avait un petit problème avec Jean-Baptiste qui était en prison à cette époque-là, parce que Jean-Baptiste avait dénoncé la relation qu'il y avait entre cette femme et puis Hérode, va lui dire « Demande la tête de Jean-Baptiste. » Et là, la Bible nous dit que Hérode va être triste. Mais que, parce qu'il était tenu par sa langue, par ses engagements, il va devoir emmener la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Quel drame, hein ? La vie de Jean-Baptiste a été sacrifiée parce que Hérode n'a pas su tenir sa langue. Deuxième exemple que prend Jacques pour montrer les dégâts que la langue peut faire, c'est un feu. C'est un petit feu, petite étincelle. Et on sait tous que quelques paroles, une seule parole, peut mettre le feu, dans le mauvais sens, à une famille, à un repas de famille, dans un lieu de travail. Mais dans le bon sens également, je le crois. Parce que l'évangile, lorsqu'il est annoncé, c'est un feu qui court. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, me direz-vous, pasteur, j'ai du mal avec mon corps. J'ai du mal avec mes paroles. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, deux choses. La première chose, c'est que je crois à la délivrance instantanée. Si tu souilles le temple du Saint-Esprit avec du tabac, avec de la cigarette, sache que le Seigneur est celui qui est capable de te délivrer. Si tu souilles ton corps avec de la drogue, avec de l'alcool, Jésus est celui qui est capable de te délivrer. Et puis, je crois également de tout mon cœur que le Seigneur, il nous nettoie jour après jour. Un jour, un vieil Indien va aller voir son pasteur. Et puis, il va utiliser une image intéressante. Il va lui dire, pasteur, en moi, c'est comme s'il y avait deux chiens qui se battaient et qui me gâchaient la vie. Alors, le pasteur va le regarder et puis va lui dire, à ton avis, lequel des chiens va gagner ? Puis le vieil Indien va lui dire, celui qui est le mieux nourri. Il avait raison. Dans notre corps, lequel va gagner ? Celui que nous nourrissons le mieux. Celui dont nous prenons le plus soin. Si nous prenons soin du régime de l'esprit, alors ce sera le régime de l'esprit qui l'emportera. Par contre, si je nourris ma vie avec des choses stupides, mauvaises, puis qui encouragent mes tendances, alors ça aura des conséquences et ce sera le mauvais chien qui gagnera et qui mangera l'autre. Nourris bien ton âme. Me direz-vous, oui, et pasteur, la vie, elle me prend du temps. Moi, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai pas le temps. Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais je vous dirai que ce n'est pas une question forcément de temps. C'est une question de priorité. Le psalmiste dira, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera, eh bien, ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Ce n'est pas forcément une question de quantité, mais c'est une question de priorité. Seigneur, eh bien, lorsque j'ai un peu de temps, je te l'offre, je te le donne. Il est pour toi. Et je nourris le bon chien. Je nourris le chien de race. Et je nourris pas le chien de la rue, là. Seigneur, je veux nourrir la bonne chose. Pour cela, je choisis mes fréquentations. Pour cela, je choisis la musique que j'écoute. Qu'est-ce qu'on met dans nos platines ? Si on nourrit notre âme avec du hard rock, et je ne suis pas un réac, eh bien on nourrit le mauvais chien. Par contre, si on met du Paul Baloche ou du Daniel Moïse, peu importe, ça dépend de nos goûts musicaux, là on nourrit le bon chien. Si je m'astreigne à nourrir mon âme avec des choses spirituelles, le bon chien sera nourri. Si en revanche, je me gave de sucreries de ce monde, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment ou un autre, ma vie spirituelle décline et que le bon chien soit mangé par le mauvais. C'est des choses toutes simples de nos vies quotidiennes qui nourrissent notre âme et qui nourrissent notre vie. Et c'est plus une question de priorité qu'une question de quantité. Alors, question toute simple pour conclure ce premier point. Comment est-ce que je nourris ma foi ? quelle est ma nourriture? Est-ce que je suis capable de tenir mon corps en bride? Ou alors est-ce que c'est mon corps qui me mène par le bout du nez? Deuxième axe où la maturité spirituelle doit s'exercer, c'est la maturité mentale. C'est celle qui consiste à garder le contrôle de nos pensées. Et là, il y a un distinguo à faire. Quelqu'un a utilisé cette expression de dire on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de s'y poser. Un jour, le patriarche Abraham va recevoir cet ordre de la part de Dieu. Voilà, tu vas m'offrir un sacrifice. Alors, il va découper les animaux, etc. Et puis, tout d'un coup, les oiseaux de proie vont fondre sur le sacrifice à l'odeur du sang. Et là, la Bible nous décrit l'épuisement d'Abraham pour lutter pour préserver le sacrifice qui était le sien. Et tous ces oiseaux, c'est un petit peu les pensées qui peuvent nous assaillir. Et là, il est nécessaire de distinguer deux types de pensées. Les pensées qui tournent et que l'on chasse, premièrement, et deuxièmement, les pensées qui viennent s'incruster dans notre cœur, dans notre tête. Un jour, je visitais une jeune fille, et puis elle me disait, mais Olivier, je fais que pécher? Je dis, attends, explique-moi. Comment ça, tu ne fais que pécher? Ben oui, chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, ben, je demande pardon à Jésus. Mais elle devait passer sa vie à demander pardon à Jésus. Et elle vivait sous un joug de culpabilité. Le problème des pensées, ce n'est pas qu'elles tournent au-dessus de notre tête. Ce n'est pas qu'elles rentrent dans une oreille et puis qu'elles sortent de l'autre. Le problème des pensées est celle qui demande réellement une repentance. C'est celle qui rentre par une oreille et qui font des petits là-haut. Trop souvent, les enfants de Dieu peuvent vivre sous une culpabilité en disant « Qu'est-ce que j'ai comme mauvaise pensée ?» Et finalement, ces mauvaises pensées ne portent pas de fruits, mais c'est le diable qui sème de temps en temps, à droite, à gauche. Et ainsi, il y a une forme de culpabilité qui se développe. Jésus dira que celui qui convoite, qui regarde une femme a déjà commis l'adultère avec lui, avec elle. Mais c'est là les pensées qui, justement, eh bien, se greffent dans la tête. Cet homme qui a regardé cette femme, il a déjà commencé à élaborer le plan pour savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir faire pour l'obtenir, pour l'avoir. Et donc, c'est à ce titre-là que Jésus dit qu'il a déjà commis l'adultère. L'homme mature distingue ces deux types de pensées. Mon frère, ma sœur, si tu ne cultives pas tes pensées, ces pensées ne sont pas péchées. En revanche, si tu les cultives et si certaines pensées sont entrées dans ton cœur, eh bien là, il y a besoin d'une guérison et la guérison passe par la repentance, par l'acceptation du fait que Jésus nous a pardonné et par la délivrance que Jésus nous procure. L'apôtre Pierre dira dans sa première épître au chapitre 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. L'expression « ceindre les reins » est très intéressante, puisqu'à l'époque, c'était des robes assez amples que portaient les hommes notamment. Et pour marcher, il fallait une ceinture, et ils relevaient la ceinture, et ils passaient le pan de la robe dans la ceinture. Et ainsi, la ceinture apportait un confort. Et l'apôtre Paul dira « saignez votre entendement ». C'est-à-dire, réunissez vos pensées. Faites-en quelque chose d'homogène. Triez, rassemblez-les. Et évitez qu'elles ne s'égarent de droite, qu'elles ne s'égarent de gauche. C'est une sacrée discipline, ça. Et là, c'est un domaine de maturité spirituelle. Mon frère, ma sœur, adulte, enfant, père, axe de progrès ou pas? Arriver à rassembler ses pensées, à trier les mauvaises des bonnes, à savoir lesquelles ne sont que des oiseaux qui tournent et qu'il faut enlever, et lesquelles, au contraire, sont celles qui viennent se nicher en nous. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, chapitre 8, 4 et verset 8, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà les pensées qu'il faut réunir en nous. Non pas les pensées de suicide, non pas les pensées impures, non pas les pensées de critique, non pas les pensées de destruction, mais des pensées qui construisent et qui honorent notre relation avec Dieu, qui honorent notre Dieu. Troisième domaine dans lequel cette maturité spirituelle doit s'exercer, C'est ce que j'ai appelé la maturité sociale, qui consiste à maintenir une conduite irréprochable uniquement dans l'Église. Et là, normalement, ça devrait être un cri. Non ! C'est faux ! Non. Je ne suis pas chrétien le dimanche. Mais je le suis tous les jours. Je suis avec ma femme. Je suis avec mon mari. Et la Bible nous explique comment régir nos relations de couple. Je suis avec mes enfants. Je m'occupe de ma famille parce que je me souviens de ce que l'apôtre Paul dira à Timothée. Celui qui néglige les siens est pire qu'un infidèle. Je respecte les autorités. Je leur ai soumis. Je paye mes impôts. Parce que ça répond aux critères qu'un chrétien doit avoir. Et avec mon patron, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et vous êtes tous des gens extraordinaires. Puisque vous faites pour lui comme si vous faisiez pour le Seigneur. Fabuleux ça. C'est ce qu'explique Paul à l'apôtre aux Colossiens. Vous faites pour lui comme si vous faisiez pour le Seigneur. Conduit dans l'église, je sais que je suis dans la maison de Dieu et que je ne peux pas y faire n'importe quoi. Ma conduite vis-à-vis de mon frère, de ma sœur, nous a expliqué dans la parole de Dieu. Bref, tout ça pour dire quoi? Que tous les jours de ma vie, je m'astreins à faire valoir cette maturité qui grandit en moi. Et je repose cette question, mais d'une manière différente. Est-ce que vos collègues de travail vous voient changer? Devenir plus calme, ne plus leur répondre, devenir moins irritable. Quand ils vous cassent les pieds, vous priez pour eux plutôt que leur crier dessus. C'est extraordinaire, ça. La maturité spirituelle, elle s'exerce dans notre quotidien. Je me souviens de cette jeune fille qui, dans l'église, avait une belle apparence. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa belle-mère. Ah, les belles-mères, les belles filles. Tout un poème. C'est pas pire que les belles-mères et les fils, enfin bref. Et donc, on discute de choses et d'autres. Et puis, je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire. Alors, j'ai creusé un petit peu parce que on est un petit peu psychologue quand on est pasteur. Puis elle m'a dit, t'as pas de problème avec... Ça se passe bien? Oui, très bien, je suis très content. Elle me dit, tu sais, parce que j'ai un gros problème. Dans la famille, elle a un témoignage déplorable. Oh, j'ai pris un building sur la tête. Elle a un témoignage déplorable. C'est lourd. D'où l'importance d'avoir cette maturité spirituelle qui ne s'exerce pas simplement de manière visible dans l'Église, mais qui se retraduit jusque dans nos familles, jusque dans notre quotidien. Une autre personne dont je me suis occupé disait, Olivier, il faut vraiment prier pour ma boîte, pour l'ambiance dans mon travail. Ils sont infernales avec moi. Soit, ils sont infernales. On va prier, hein, le Seigneur est capable. Et puis, un jour, j'étais dans une réunion de travail, et puis il y avait plusieurs patrons qui étaient là. Et je me suis retrouvé en face du patron de cette jeune fille, de cette personne. Et on discute, et puis je lui dis, tiens, dans ta société, parce qu'on se connaissait assez bien, dans ta société, t'as quelqu'un que je connais bien, c'est telle jeune fille. Et il me dit, tu la connais d'où? Alors là, j'ai senti le piège. Il dit, oh, c'est... On se connaît. On se voit assez fréquemment. Ah bon? Elle me met la pagaille dans le bureau, elle s'est mis tout le monde à dos. J'étais content de ne pas lui dire qu'elle était chrétienne. Puis j'ai eu confirmation par quelqu'un d'autre que c'était vrai. La maturité spirituelle s'exerce dans le quotidien. Ma vie chrétienne prend de l'ampleur dans son quotidien. Et si j'arrive à vivre ainsi, à vivre, à laisser plus de Jésus, à grandir devant Dieu et à grandir devant les hommes, par une intimité avec mon Dieu, par une relation avec mon Dieu, par la sanctification que produit le Saint-Esprit en moi, que ce soit par la parole, que ce soit par les difficultés de la vie, que ce soit tout simplement par un frère, par une sœur, il a différents moyens. Ma vie de tous les jours en sera changée. Ma vie d'entreprise en sera changée. Ma vie familiale en sera changée. Peut-être que certaines de tes difficultés, je pense qu'il y a une parole de Dieu, ne sont pas liées aux autres. Ne sont pas liées aux autres, mais sont liées au fait qu'il y a certainement une croissance à avoir et des choses à épurer. Des choses à épurer. Quatrième domaine. Quatrième domaine dans lequel nous devons, cette maturité spirituelle doit s'exercer. C'est la maturité, c'est la stabilité dans la foi. Imaginez vos enfants qui vous disent, papa, aujourd'hui j'ai envie d'aller à l'école, mais demain j'irai pas. C'est le résultat d'un enfant, on peut l'accepter d'un enfant. Mais imaginez un jeune homme de 18 ans qui va passer son bac scientifique, qui dise par exemple à sa maman, maman, aujourd'hui j'ai envie d'aller en cours, mais demain j'ai pas envie d'y aller. Alors la maman qui est sage, va lui dire, écoute, t'es un jeune homme maintenant, hein, t'as pas le choix d'ailleurs, faut que tu y ailles. Mais un adulte réagit avec constance, il a conscience des priorités des choses. Voilà, faut que j'aille à l'école, faut que j'aille au travail, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. Un enfant, lui, se laissera guider par ses caprices et parfois il faudra une bonne fessée pour le remettre dans le droit chemin. Alors ça pigne, ça pleure, hein, mais il y va quand même. Parfois, voyez-vous, et ça c'est un signe de maturité spirituelle, et je vous le dis souvent, mais je vous le redirai encore, avec Jésus, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et quand on est à l'école de Dieu, eh bien, il faut apprendre. Et trop d'hommes, trop de femmes restent dans le désert, un petit peu comme le peuple d'Israël, parce qu'à certains moments, ils n'ont pas voulu recevoir la croissance spirituelle que Dieu voulait leur donner. Alors ils pignent, ils pleurent. Et qu'est-ce que fait Dieu dans sa bonté? Il leur donne une grosse fessée. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Parce que Dieu nous aime, et bien parfois, il nous corrige quelque peu. Merci Seigneur pour toutes les fessées que mon Père m'a données. Parce qu'elles m'ont été bien utiles. Et elles m'ont apprises, eh bien que dans ma vie, dans la vie, on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait. Et dans la vie chrétienne, je ne suis pas toujours appelé à faire ce que je veux, mais je suis appelé à faire ce que Jésus veut. Et ça, ça change. C'est vrai dans le service, c'est vrai dans la vie de prière, c'est vrai dans mon quotidien. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que quelque part, ça me fait grandir et que je suis heureux d'avoir fait les choses. Que je suis heureux d'avoir fait les choses. Que le Seigneur nous aide à être de ceux, de celles qui, dans ces quatre domaines, dans notre corps, dans nos pensées, dans notre vie sociale, dans notre relation avec Dieu, eh bien, puissions développer tous ces signes de maturité et que les gens puissent venir nous voir, nous taper sur l'épaule et nous dire, hey, tes progrès, ils sont évidents. Tes progrès, ils sont évidents. Sachons le faire auprès d'un frère, d'une sœur. Je trouve que c'est important, et ce sera la conclusion de ma conclusion. Je trouve que c'est important qu'on puisse avoir cette liberté de partager et que Céline aille dire à Julien, que Julien aille dire à Isabelle, non sous la vaine flatterie, en disant « Waouh, qu'est-ce que t'es bien comme chrétien, j'aimerais être comme toi !» Mais d'une manière vraiment spirituelle et d'une manière réelle et authentique, dire « Écoute, ta prière m'a fait du bien, ta louange m'a fait du bien, je trouve que tu avances bien, continue, voilà, c'est... » Je trouve que c'est quelque chose de sain, de pouvoir vivre une vie de famille comme ça, et de pouvoir, parfois se reprendre les uns les autres, de veiller les uns sur les autres, mais également de s'encourager les uns les autres, de manière à dire « Tes progrès sont évidents !» Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier. Seigneur, apprends-nous à grandir, Seigneur, et nous voulons te dire encore ce matin que nous acceptons de nous mettre à ton école, que nous acceptons de nous mettre auprès de toi, Seigneur, que nous acceptons de nous tenir, Seigneur, eh bien, auprès de, à tes pieds, Seigneur, comme les élèves se tiennent auprès du Maître, afin que tu nous apprennes, afin que tu nous enseignes, afin que nous, tu nous fasses grandir. Seigneur, prends-nous, aide-nous à tenir notre corps en bride. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à trier dans nos pensées celles qui sont peut-être enracinées, qui sont mauvaises. Et dans ce cas, nous te demandons pardon et nous te demandons de les enlever. Seigneur, nous te demandons ta grâce, Seigneur, dans notre vie sociale, que nous puissions vraiment être le sel de la terre, des hommes et des femmes de qui l'on rende un bon témoignage. Merci, Seigneur, de nous y aider. Merci de nous y faire de nous faire du bien. Seigneur, apprends-nous, dans notre vie spirituelle, à être des adultes qui faisons ta volonté et non pas simplement la nôtre. Seigneur, fais grandir ton peuple. Merci parce que c'est toi qui nous aides. Merci parce que c'est toi qui le fais. Seigneur, nous nous mettons juste à ta disposition. Nous ouvrons juste nos cœurs, Seigneur, d'une manière véritable et d'une manière authentique. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.